Michael maintenant va nous parler du nouveau rôle de la religion dans l'émergence des identités. Myriam.
Merci. Donc, je voulais réfléchir à une analyse en termes d'impact. C'était le but, le mandat, et je suis partie finalement à une analyse en trois temps. L'impact principal de la politique américaine sur les stratégies identitaires des communautés musulmanes, mais aussi l'impact en contrepartie et comme contrepoids des politiques nationales d'intégration sur les réponses identitaires des communautés musulmanes, qui viendraient comme relativiser cet impact de la politique américaine. Et en retour, l'impact, et par ricochet, de ces positionnements identitaires des communautés musulmanes sur notre propre conscience identitaire nationale. Donc finalement, une analyse des impacts en trois temps. Il n'y a pas si longtemps, on annonçait encore la fin de la religion, la fin de la religion en Occident, ou plutôt sa transformation en croyance individuelle. Daniel Hervier-Léger nous a comment dire, habitués à ce discours. Et à vrai dire, avant 2001, un certain nombre de recherches qui portaient sur le thème de l'immigration et de l'intégration, des études ont été effectuées sur 300 recherches menées ici au Canada. Seulement 6% s'intéressaient à la variable de la religion. Aujourd'hui, manifestement, on assiste à un recentrage du discours autour du référent religieux qui conduit à déplacer la nature du risque. Un recentrage du discours religieux comme marqueur identitaire, où ce qui importe, ce n'est plus la différence culturelle en tant que telle, mais plutôt, justement, l'appartenance religieuse, le référent religieux. Alors, avec les discours, c'est aussi les recherches en cours qui se sont transformées. Où tout d'un coup, j'ai eu l'occasion de faire un état des lieux sur la recherche qui s'intéressait à la population, à l'intégration, à la population immigrante. Et ce que j'ai pu observer, c'est que, quelles que soient finalement les disciplines, la religion, subitement, devient comme un élément incontournable, comme le principe explicatif de toute différence ou comme de toute difficulté d'intégration. Donc il y a là un véritable changement. Et puis ce changement trouve ses relais également dans les débats avec certaines questions. Le 21e siècle sera-t-il religieux? L'islam est-il dangereux? Sur le sens du voile islamique dans les sociétés modernes. Et puis nous avons tous nos débats au Canada en ce moment, débats sur la charte ou la charia en termes alternatifs. En France, des titres comme la République ou la barbarie. Et ce que je vois à travers donc ces différents, cette répercussion dans le domaine de la recherche, c'est ce que la politique américaine nous a imposé, c'est une nouvelle grille d'interprétation des lignes de fracture entre cultures et des rapports de force internationaux, s'organisant autour d'une division religieuse. C'est ce qu'elle a imposé, mais ce qu'elle a induit, c'est par sa vision du monde, c'est l'émergence d'un nouveau sujet politique sur la scène internationale et nationale, la communauté musulmane. L'émergence, autrement dit, de l'islam comme identité collective et sa transnationalisation du religieux à travers lequel la communauté cultive non plus le sentiment d'être simplement une sous-culture, une minorité à l'intérieur d'une majorité, à l'intérieur d'une nation, mais une culture religieuse qui s'internationalise. Ce ne serait plus non plus une identité alternative à l'identité nationale, mais une identité qui surplombe la référence à l'appartenance musulmane. Dans ce changement, dans l'émergence de ce sujet islamique, on parle d'un certain nombre de postulats. L'islam, plus qu'une religion, deviendrait une identité. Cette identité imposée ou assumée est mobilisée dans les stratégies identitaires de type défensive, et on le voit, que ce soit sur la scène politique, dans l'arène judiciaire ou sur la place publique. Alors, quelle est la source de cette dimension de ce processus identitaire de l'islam? Principalement, je dirais, le refus d'une identité assignée par une puissance étrangère, fût-ce la première puissance, les États-Unis, l'obligeant à se positionner comme pays musulman pro ou anti-américain, ou comme individu musulman modéré, ou intégriste, auquel s'ajoute la stigmatisation des musulmans en tant que musulmans et non plus en tant qu'immigrés, mais qui a commencé également avant les événements du 11 septembre, en raison de la plus grande visibilité de l'islam qui s'est accélérée après le 11 septembre avec la nouvelle catégorisation du musulman comme terroriste potentiel. En fait, je crois beaucoup plus aux causes multiples et combinées qu'aux causes uniques. Si on regarde dans les faits l'impact de la politique américaine ici au Canada, il y a eu quelques pressions. En l'occurrence, on peut parler de l'adoption de la loi antiterroriste, la loi C-36, qui a modifié 22 lois existantes. Il y a eu la création d'un périmètre nord-américain de sécurité, qualifié de frontière intelligente, la création d'un méga-fichier, un certain nombre de pressions. Le moins que l'on puisse dire, c'est que le climat a été à la suspicion, mais il n'en a pas résulté une chasse aux sorcières, comme on aurait pu s'y attendre avec ces restrictions de liberté. La loi a plutôt été invoquée, plutôt que appliquée. Et en l'occurrence, il y a eu relativement peu de crimes haineux sur le territoire canadien. En revanche, la communauté musulmane se dit victime de discriminations diverses, de stigmatisation, de catégorisation négative, de généralisation. Au lendemain des événements du 11 septembre, elle a développé une stratégie de repli communautaire dans la volonté de se faire discrète. En l'occurrence, en passant sous silence un certain nombre d'actes d'agressivité dont elle se disait victime. En revanche, là, je pense où il y a le plus d'impact, c'est sur les représentations, ou pour reprendre le terme de Thierry Hunch, sur l'imaginaire. Une image dévalorisée, relayée par les médias et les émissions d'affaires publiques, qui alimentent la peur par des questions sensationnelles, avez-vous peur de l'islam, et dont on trouve la traduction dans les sondages. Sondage effectué l'année dernière, les Québécois et Canadiens craignent davantage les tensions entre les différentes confessions que les haines ethniques ou les problèmes autochtones. Et je pense que cette stigmatisation de l'islam, en l'occurrence, a participé à la construction d'une identité musulmane qui s'affirme dans l'espace public, non pas tant par conviction que par réaction à un contexte occidental hostile. Et cela également contre la logique qui cherche à enfermer l'islamité ou la condition immigrée également dans une double stratégie identitaire, soit de rupture avec la culture d'origine, donc une stratégie d'assimilation, soit de rupture avec la société d'accueil, communautarisme. L'onde de choc du 11 septembre 2001 n'a pas seulement bouleversé le jeu politique des relations internationales, elle a obligé les minorités arabo-musulmanes à se positionner par rapport à leur majorité nationale, à renégocier leur place sur le terrain de leur représentation sociale et politique. Et on voit donc des parallèles entre la scène internationale et la scène nationale. En l'occurrence, la préoccupation pour la paix dans le monde, c'est par une répercussion de l'onde de choc prolongée par une préoccupation nationale pour la stabilité de la démocratie occidentale pluraliste. Alors, avant ces événements, l'islam s'affirmait déjà auparavant sur la place publique nationale, et ce mouvement donc vers une plus grande visibilité de l'islam vient relativiser en même temps l'impact de la politique américaine. En France, on n'a qu'à penser à l'émergence d'un islam politique avec la naissance du mouvement Beur en France, avec les événements ce mouvement Beur qui est associé à un mouvement politique, de revendication politique de l'islam. Au Canada, la situation est différente. Il y a eu trois vagues essentiellement d'immigration arabe qui correspondent à trois grandes attitudes d'acculturation, auxquelles s'ajoutent également différentes stratégies identitaires des sous-groupes de la communauté. La première vague commence autour de 1882. Et la deuxième vague de 1950 à 1975. C'était des vagues majoritairement chrétiennes. Et la stratégie de cette population immigrante était une stratégie d'assimilation, autrement dit de se fondre dans la société. ce qui se traduisait également par un déni identitaire et une déculturation, à savoir la perte de la langue et un changement aussi, la tentative pour changer de nom. Cette identité qui a été reniée a été redécouverte par les nouvelles générations qui se sont lancées, elles, en réaction à cette perte identitaire dans une quête des origines et une revendication de leurs différences culturelles. La troisième vague d'immigration provient essentiellement du Maghreb, qui est majoritairement musulman et qui est celle qui souffre le plus de cette dévalorisation identitaire sur fond de stigmatisation de la différence culturelle. Et qui correspond donc à toutes ces images stéréotypées de l'islam à travers l'imaginaire de l'islam comme totalitaire, obscurantiste, violent. Donc une image déformée qui se nourrit donc de ces différences, mais qui a créé une identité mutilée, stigmatisée. Et alors pour revenir sur cette notion de stratégie identitaire, rappelons quelques mots avant d'en étudier les manifestations. C'est une notion qui a été développée dans le domaine de la psychologie sociale et rendue célèbre par Carmel Camilleri, qui s'est intéressée essentiellement à des études en matière donc d'immigration et d'intégration. Stratégie identitaire fait penser également à un langage militaire de manœuvre. Manœuvre de diversion, de compensation, d'évitement, de contournement. L'intérêt d'une analyse en termes de stratégie identitaire, c'est que justement elles sont variées. Elles sont variées, elles sont variables. Elles varient dans le temps, elles varient en fonction des personnes, en fonction des groupes, en fonction de l'histoire, en fonction de la politique d'intégration du pays, en fonction de bien des variables. Et l'intérêt de cette notion est qu'elle place également les stratégies identitaires dans un processus dynamique d'interaction où se jouent les influences réciproques des politiques nationales, internationales, des minorités, du pays d'origine, etc. Mais la finalité des stratégies identitaires est de préserver une image positive de son identité face à ses détracteurs. Alors, ces stratégies sont diverses. Ce qu'on peut observer à travers les différentes manifestations de revendications identitaires, justement sur la place, sur la scène politique, judiciaire et sociale, à travers bien des dossiers. Je pense aux dossiers notamment scolaires, où il y a de plus en plus de demandes d'accommodement raisonnable, qui est une mesure juridique. Je pense également à l'aménagement des lieux de culte, où là aussi les revendications sont beaucoup plus virulentes, où l'on va jusqu'à contester donc tous les règlements d'urbanisme en matière de zonage, au nom des droits justement d'exercer sa religion. Le Québec a connu un certain nombre de sursauts autour d'affaires telles que celle du kirpan, du foulard dans les écoles, qui a connu une issue très différente par rapport à celle de la France, l'affaire de l'Érouve et autres. Ce qui apparaît à travers ces différentes manifestations, c'est un changement de stratégie identitaire. Ce n'est plus une identité qui s'affirme sur un plan individuel, mais plutôt une identité qui s'affirme sur un plan collectif et qui correspond à une gestion moins défensive de l'identité, qui menaçait, qui s'exprime par des attitudes d'évitement des conflits jusqu'à se rendre invisible ou à éviter le conflit, mais plutôt par une gestion offensive de l'identité qui peut aller jusqu'à l'affrontement et qui se traduit bien souvent par une survalorisation de la religion. L'identité polémique constitue un moyen de protestation contre une identité imposée. L'identité religieuse passe au premier plan et s'extériorise sur la place publique. Et ça s'exprime par un plus grand désir de visibilité, qui peut s'affirmer également dans un engagement plus politique. L'identité collective vient souder les membres de ce groupe au-delà des autres identifications possibles autour de l'ethnie ou de la nationalité et joue un rôle de cohésion du groupe, donc en l'occurrence les communautés musulmanes, et constitue en même temps un critère de différenciation vis-à-vis des non-musulmans. Alors, partant de cette idée de recomposition identitaire, qui se développe justement sur ce terrain propice de la stigmatisation. Il y aurait sans doute encore à réinventer un certain nombre de grilles d'analyse, mais il y a un contexte qui rend ces stratégies identitaires très propices, en l'occurrence l'islam est la religion qui connaît la plus forte croissance au Canada et qui connaît un regain également de religiosité depuis 10 ans. C'est une communauté, cela dit, qui reste peu structurée, c'est-à-dire qu'elle a des associations, mais elle n'a pas d'instance de représentation en tant que telle. Les conflits internes à la communauté sont nombreux, selon donc l'origine nationale, les différentes écoles d'interprétation de la charia, mais aussi en fonction de conditions socio-économiques différentes. Donc, nous n'avons pas de communauté en tant que telle qui soit réellement organisée, mais qui cherche à s'organiser. Et j'aimerais revenir sur l'impact donc de la politique américaine qui a contribué à l'émergence de ce sujet islamique. J'aimerais le contrebalancer ou le relativiser avec l'impact en contrepoids de la politique d'intégration sur les stratégies identitaires. Avec un petit retour sur le projet très très controversé, sur le projet de tribunal arbitrage islamique en Ontario, l'idée toute simple de ce tribunal d'arbitrage islamique est de régler les litiges familiaux et d'héritage en ayant recours à des arbitres inspirés par la charia. Moustaz Ali, qui est le président de la Société canadienne des musulmans, a fondé l'Institut islamique de justice civile, et selon cet avocat, donc, qui a été le premier musulman également à avoir prêté son serment d'avocat sur le Coran, le multiculturalisme, au nom du multiculturalisme, on devrait permettre à toutes les communautés du pays d'administrer le droit privé selon leurs croyances religieuses et culturelles. Rappelons en quelques mots que l'approche multiculturelle du Canada a été érigée en politique officielle par le Premier ministre Pierre Elliott Trudeau en 1971 et inscrite dans la Constitution en 1982, et elle constitue en partie la trame du débat. Toutes les réactions donc sont très controversées. Cela dit, si on regarde ici au niveau donc de la politique d'intégration du Québec, qui est beaucoup plus fondée sur une politique non pas du multiculturalisme mais de l'interculturalisme, la communauté musulmane réagit différemment. Un de ses porte-paroles, Salam Al-Minyaoui, le président du Conseil musulman à Montréal, a démenti dans les journaux toute intention de négocier l'instance d'une médiation ou d'arbitrage au Québec. Et à l'intérieur donc de ce cadre, ce qui est intéressant, c'est que les stratégies identitaires des communautés musulmanes, qui ont été très fortement influencées par la politique, par la vision du monde et la politique américaine, est justement relativisée par notre propre politique d'intégration. Le Québec défend un modèle d'intégration civique et inclusif, ayant pour cadre les principes de la politique de l'interculturalisme. Le ministre de la Justice du Québec s'est expliqué dans Le Devoir. L'instauration d'une instance d'arbitrage ou de médiation qui rendrait des décisions en matière familiale en vertu de la charia ou de tout autre cadre religieux n'est pas et ne sera pas permise par la législation québécoise. Alors ces dossiers, comme bien d'autres, suscitent beaucoup d'émotions, cela dit, au sein de la population québécoise. Et ce qui est étonnant, c'est qu'elle suscite beaucoup plus d'émotions ici qu'en Ontario, alors que c'est un dossier finalement ontarien. Et je pense qu'il y a, lieu de s'interroger là-dessus. Le ministre Jacques Dupuis affirme par ailleurs que le Code civil s'applique à tous les résidents du Québec, quelle que soit leur appartenance religieuse. Il est hors de question de toucher à ce principe d'égalité de tous devant la loi, qui est fondamental dans les valeurs du Québec, dit-il. Or, ce que revendiquent les musulmans ontariens favorables à ce projet, c'est également l'égalité de droit, au même titre que les catholiques et les juifs de cette province, de demander l'arbitrage en matière familiale sur la base de leur foi, de leur loi religieuse. Or, il s'agit ici du cadre de la politique du multiculturalisme, de la revendication de droits égaux, non plus pour des individus, mais pour des minorités religieuses, alors qu'au Québec, ce sont les musulmans en tant que citoyens et non comme collectivité qui doivent être traités comme des citoyens égaux aux autres. J'ai interrogé la communauté juridique sur ce dossier. Les plus progressistes au Québec défendent non pas ce projet, donc cette recommandation pour l'instant de Marion Boyd, mais défendent l'accommodement raisonnable. comme une mesure, comme un outil d'intégration, mais sur une base individuelle, justement. En quelques mots, l'accommodement raisonnable est une mesure juridique qui vise à remédier aux effets discriminatoires d'une norme qui est neutre, qui est légitime en apparence, mais qui, dans son application, peut avoir des effets discriminatoires en raison des particularités ou des besoins particuliers d'un individu ou d'un groupe. Alors, en l'occurrence, c'est également ma position. Je défends aussi l'accommodement raisonnable. Mais ce qui est intéressant dans cette notion et qui reflète la politique du Canada, je vous remercie, il s'agit plutôt... L'idée est d'intégrer la différence sans chercher à l'assimiler. C'est aussi intégrer sans séparer. Il s'agit plutôt d'accommoder le foulard à l'école plutôt que de créer des écoles séparées. Il s'agit d'adapter le système judiciaire à la diversité culturelle et religieuse plutôt que de former un système de droit parallèle qui plus est peut concurrencer la justice étatique. Au fond, il s'agit essentiellement d'éviter les conflits de valeurs au prix de quelques aménagements et de permettre de vivre ses convictions à l'intérieur des institutions et non pas en créant des institutions parallèles, une espèce de justice parallèle. Et la grande crainte ici au Québec, c'est finalement l'émergence d'une ghettoisation de la justice. Préoccupation qui n'existe pas, en tout cas auquel je n'ai pas réel. Il y a beaucoup moins d'écho en Ontario. Alors, en même temps, je voudrais finir là-dessus en quelques mots. Je voudrais finir sur l'impact en retour sur notre propre conscience identitaire nationale, à savoir l'impact en retour de ces stratégies identitaires des communautés musulmanes sur notre propre conscience identitaire. La construction de l'image de soi du Québec comme société a longtemps été dominée par l'identité ethno-religieuse, s'articulant autour de la différenciation entre une identité francophone catholique et l'identité protestante anglophone. C'est depuis les années 60 que la société québécoise s'est engagée dans un processus de laïcisation de la société motivé par un nationalisme progressiste, sans cela dit que la laïcité ne fasse l'objet d'une définition claire au Québec. Et c'est pourtant, j'essaie d'expliquer pourquoi les réactions sont plus vives au Québec, en l'occurrence en raison de cette mémoire qui est chargée de ce souvenir de la grande noirceur, où l'Église catholique comme institution dominait de son autorité, donc la société. La question et la crainte de l'affirmation de l'islam comme minorité s'institutionnalisant renvoie aux propres insécurités identitaire des Québécois comme minorité. Et les débats en France sur la question du port du foulard dans les écoles, ainsi que la décision donc de Jacques Chirac de légiférer sur cette question, réaffirmant les valeurs républicaines, n'ont pas laissé indifférent le Québec. En l'occurrence, il apparaît un mouvement laïque militant qui se fait entendre et qui défend ici une laïcité à la française, sur fond d'opposition justement entre les identités religieuses et l'identité québécoise. Je ne vais pas pouvoir continuer trop loin. Ce qui me semble très intéressant dans cette notion de stratégie identitaire, c'est que justement, elle nous permet d'éviter un certain nombre de défauts auxquels on nous a habitués, à savoir une vision très, très dualiste, très partagée entre, d'un côté, les gentils et les méchants, les musulmans modérés et les intégristes, alors que les stratégies identitaires qui sont également qui sont mises en œuvre dans ce projet de tribunal islamique renvoie à une variété de positionnements identitaires, à une variété d'utilisation du référent identitaire qui est fonction à la fois du parcours d'immigration de cette communauté, de la durée de son acculturation à la société québécoise, qui est fonction également de notre politique d'intégration de nos minorités, en fait qui est fonction d'une variable, qui est fonction d'une variété de variables qui rend extrêmement dangereux de réduire même ce débat en finalement les pour et les contre. Je m'arrêterai là-dessus de façon un peu brutale, mais je m'arrêterai là-dessus.
Merci beaucoup, Myriam Jézéquel.